Eh bien, bonsoir à tous. Je suis heureuse de voir que vous êtes nombreux pour venir écouter Denis Moreau, que je suis aussi très heureuse d'accueillir ce soir. Denis Moreau est professeur de philosophie à l'Université de Nantes, en histoire de la philosophie moderne et philosophie de la religion. Il avait fait sa première thèse sur les cartésiens, une interprétation de la polémique entre Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche. Et il a présenté son habilitation autour de cartésianisme et christianisme sous la direction de Jacqueline Lagré. Alors, ces publications sont multiples. Et donc, je m'excuse par avance de ne pas les énoncer toutes, mais je vais en choisir l'une ou l'autre pour vous donner envie d'aller lire Denis Moreau. Alors, bien sûr, deux cartésiens, la polémique entre Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche. C'est assez logique, c'était la publication de la thèse. Mais vous avez aussi des livres qui peuvent être d'excellentes introductions à des auteurs majeurs de la tradition philosophique, comme le Malebranche, donc publié chez Vrin. Et je signale qu'il est en préparation un livre qu'apparemment Denis Moreau écrit à grande vitesse sur la philosophie de Descartes et qui rendra certainement service à beaucoup d'étudiants. Mais ce que j'admire aussi chez Denis Moreau, c'est qu'il ne se contente pas d'ouvrages purement philosophiques, mais qu'il cherche aussi à réfléchir sur les questions de l'existence qui sont les nôtres. Bon, c'est bien évidemment dans cette ligne que s'inscrit l'ouvrage « Les voies du salut » dont nous parlerons ce soir, enfin autour duquel nous parlerons ce soir, mais il y a aussi un livre qui s'intitule « Dans le milieu d'une forêt, essai sur Descartes et le sens de la vie » ou encore un livre tout récent et sur lequel je crois Denis Moreau aimerait bien parler un jour ou l'autre, « Pour la vie, court traité du mariage et des séparations ». Mais Denis Moreau a aussi contribué aussi dirigé le dictionnaire des monothéismes, qui est certainement un ouvrage très utile pour beaucoup. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage à sa présentation. Je vous invite à aller visiter la page sur le site de l'Université de Nantes, où il présente ses différentes publications. Mais je vais tout de suite lui donner la parole sur le thème que nous avons retenu pour ce soir, pour une intelligence du salut. Et bien évidemment, comme d'habitude, dans un deuxième temps, un dialogue s'instaurera avec la salle et vous pourrez vous poser vos questions ou discuter telle ou telle thèse. D'avance, merci.
Merci, vous m'entendez, oui. Merci Isabelle, puis merci à vous d'être venu. Alors, je suis très content d'être là et honoré d'être là. C'est un lieu que je connais, que j'apprécie, hein. Même si je suis provincial, j'habite à Nantes, mais je suis déjà venu une fois parler dans un cadre identique à celui de ce soir. Alors, j'ai regardé dans mes archives, c'était le 6 décembre 2006, je suis venu parler de Théodicée. Et puis, dans une autre vie où j'étais étudiant parisien, je suis souvent venu ici pour apprendre et pour écouter. Donc je suis content d'être là, en fait. Alors, je sais bien que les conférenciers disent toujours ça, mais moi, en plus, c'est vrai, quoi. Voilà. Je suis venu vous parler du salut. Donc, je vais à la fois vous présenter, pas tout de suite, une hypothèse que j'ai proposée à ce sujet dans le livre que j'ai consacré à cette question. Je voudrais avant ça vous proposer quelques considérations plus générales sur l'intérêt contemporain du concept de salut. Et avant ça encore, quelques considérations encore plus générales sur les questions de méthode et l'air du temps intellectuel, on va dire, tel que je peux le comprendre. Alors, mon point de vue est assez situé, hein. Mon point de vue est celui d'un intellectuel catholique, bientôt quinquagénaire, enseignant la philosophie dans une université publique en France. J'ai d'abord enseigné à Paris 12, puis à l'université de Nantes. J'ai choisi de ne pas cacher mon catholicisme. Et donc, ça me donne un point de vue parmi d'autres, notamment dans le rapport à mes collègues, qui me permettent peut-être de voir certaines choses qui sont moins explicitement visibles depuis un lieu confessionnel comme ici. Alors, pour que les choses soient bien claires, sur ma position de philosophe catholique dans une université publique, je voudrais dire que je ne suis pas du tout dans une rhétorique de la persécution. J'ai lu là l'autre jour un article d'un intellectuel catholique qui s'estimait persécuté en France, c'était son mot. Alors j'ai envie de dire la bonne blague. Allez donc en parler aux chrétiens d'Irak, hein, ils vous diront. Et en tant que, j'ai toujours pu écrire ce que je voulais. Je suis fonctionnaire, on peut même dire que la République me paye pour ça. Je n'ai jamais eu le sentiment que mon catholicisme affiché m'empêchait de gravir tranquillement les échelons de la hiérarchie universitaire. Donc j'ai le sentiment que l'université publique française est un véritable espace de liberté intellectuelle et je m'estime même redevable à la République, on va dire, pour les commodités qu'elle m'accorde dans l'exercice de mes activités d'intellectuel catholique. On parlait de Descartes, c'est un auteur que j'aime bien. Il y a une phrase qui scande la quatrième méditation de Descartes, c'est je n'ai aucun droit de me plaindre. C'est une phrase que je peux volontiers faire mienne dans la position où je suis. Après, alors bien sûr, être intellectuel catholique dans l'université publique française des années 2010, c'est aussi faire l'expérience d'une condition, on va dire, intellectuellement minoritaire. Et c'est ce qui explique en grande partie mon projet intellectuel là, depuis une dizaine d'années, notamment dans ce livre sur le salut. Si on veut lâcher un gros mot, on peut dire ce que j'essaie de faire, c'est de l'apologétique. Bon. Si on veut éviter le gros mot, on peut dire ce que j'essaie de faire, c'est en tant que catholique, me faire comprendre, étant entendu qu'il me semble que dans les milieux où j'évolue, le catholicisme est devenu pour la majorité des gens à peu près inintelligible. Donc c'est ça que j'ai voulu faire dans ce livre consacré au ce que je voudrais faire concernant le salut. J'ai essayé de rendre intelligible pour un lecteur contemporain la proposition, j'expliquerai ça tout à l'heure, la foi en la résurrection du Christ nous libère du péché. Bon. Alors je l'ai fait en philosophe, je ne suis pas théologien, hein, je suis philosophe. Je dis ça, il m'est arrivé notamment ici de voir des bons théologiens au travail. J'ai toujours été très admiratif devant les théologiens, notamment devant la multiplicité des compétences que cette activité suppose, hein, pour faire un tas de langues anciennes, de l'histoire, de la linguistique, de la philosophie. Bon, donc quand je vois un bon théologien à l'œuvre, je dis chapeau, mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi, je fais de la philosophie. Alors j'entends bien l'objection, le salut, c'est une notion avant tout théologique, et donc quand on réfléchit sur le salut, on ne fait pas de la philosophie et ça ne peut pas en être. Alors je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la philosophie se définit non pas par la nature de ses objets, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas des objets qui seraient philosophiques et d'autres qui ne le seraient pas. Je pense que la philosophie se définit par la nature des procédures de réflexion qu'elle met en œuvre. Et donc, pour le dire autrement, je défends une conception de la philosophie tout terrain. D'ailleurs, je pense que tout le réel, tout ce qui existe, est potentiellement objet de réflexion philosophique. Alors, bien sûr, les objets classiquement identifiés comme philosophiques, vous pouvez philosopher sur la liberté, la substance, la causalité, etc. Mais aussi sur les domaines qui intéressent davantage les hommes en général, l'argent, le sexe, le sport, s'il le faut. Et pourquoi pas, si on estime que le thème est digne d'intérêt, le salut. Après, reste à savoir si c'est réussi et si c'est de la bonne philosophie. Ce que je propose, ça, c'est un autre problème. Bien entendu, ce que je vais vous proposer ce soir n'exclut pas qu'il y ait d'autres points de vue ou d'autres méthodes que la philosophie pour réfléchir à la question du salut. Je ne prétends pas être dans une position hégémonique, hein, ou qui épuise ce qu'il y a à en dire. De ce point de vue-là, la réflexion que que je vais vous proposer tout à l'heure, on peut dire qu'elle est d'inspiration ratzingérienne. Hein, si on devait me coller une catégorie, je prendrais bien ratzingérien de gauche, ça me va bien. Un des thèmes sur lequel Benoît XVI a insisté au cours de son pontificat, c'est ce qu'il appelait la rationalité élargie. Rationalité élargie. C'est un thème qui était sorti dès le fameux discours de Ratisbonne, là, qui avait été si difficilement reçu et qui est ressorti périodiquement au long du pontificat de Benoît XVI. Vous pouvez regarder, je ne l'ai pas mis sur les feuilles, mais sur le site du Vatican, un texte qui est l'audience aux professeurs d'université du 7 juin 2008. Audience aux professeurs d'université du 7 juin 2008. Donc l'idée, c'est de ne pas considérer, comme le fait souvent notre époque, que l'exercice de la raison se cantonne aux seules sciences dures, positives, mathématiques, biologie, physique, là où il y a du calculable. toute figure de la rationalité, hein, certes, mais d'une rationalité restreinte, si on considère que la rationalité se réduit à elle. L'idée, c'est qu'on peut aussi parler rationnellement, et c'est le rôle propre peut-être de la philosophie, de questions morales, pratiques, existentielles, et donc aussi de la dimension religieuse, et dans mon cas chrétienne, de ces questions. Et ça, je crois que non seulement on le peut, mais il me semble qu'à présent, on le doit. Je pense qu'un des problèmes actuels chez les intellectuels catholiques que je côtoie, pas chez les philosophes évidemment, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la tentation fidéiste. La tentation fidéiste, cette idée que la foi seule, alors ce qu'on appelle parfois la foi du charbonnier, suffit. Je crains que le fidéisme chez les intellectuels soit une porte de sortie du christianisme. Alors j'ai beaucoup de respect pour la foi du charbonnier, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai beaucoup de respect pour la foi du charbonnier quand c'est celle d'un charbonnier. Ce qui me paraît plus problématique, c'est quand quelqu'un qui n'est pas ou n'est plus un charbonnier, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études, en gros, et en France aujourd'hui ça fait du monde, hein, se contente délibérément de la foi du charbonnier. Là je pense qu'il y a une difficulté. Je pense que dans la relation à soi-même, il est quand même utile de s'efforcer de comprendre un minimum ce qu'on dit et ce qu'on croit. Alors, pour prendre ce dont je vais parler, si on croit que le Christ est le Sauveur, qui nous a apporté le salut, il faut au minimum se demander ce que ça veut dire, se demander de quoi nous avons besoin d'être sauvés, si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, comment nous le sommes, etc. Sinon, on reste dans le flou, l'incompris, et je crains qu'une foi floue soit une foi faible. Et puis il le faut, alors peut-être encore plus dans le rapport aux autres. Ceux qu'on a fugacement appelés les gentils, mais c'est un peu retombé, je crois, dans. Donc on va dire, disons, les gentils ou les non-croyants. Sinon, il ne faudra pas s'étonner que les non-croyants nous regardent, nous, chrétiens, comme ils nous regardent. Alors là, je peux vous faire part de mon expérience universitaire catholique dans l'enseignement public de la France des années 2010. Les gentils nous regardent, enfin, me regardent, je ne sais pas vous, mais me regardent comme un farfelu, hein, un illuminé, le membre d'une espèce de secte un peu bizarre. Si vous lisez Libération, hein, c'est assez frappant, comme c'est un journal, enfin, toute chose égale par ailleurs, qui enregistre quand même tous ces exclusivement les signaux qui stigmatisent les chrétiens comme une confrérie d'arriérés. Et dans le même ordre, moi je suis toujours très étonné quand je parle de ma foi avec mes collègues, de voir ce qu'ils croient que je crois. Je parlais récemment avec un collègue sympa avec qui je m'entends bien, on a travaillé ensemble. La conversation a dérivé sur l'Eucharistie. Et il était persuadé que je croyais que le dimanche, je mangeais un bout de steak de Jésus-Christ à la messe ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, une forme d'anthropophagie. Alors, je lui ai dit, c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Voilà, mais bon, c'est quand même ça l'image que les gens se font souvent de nous. Il me semble qu'il y a un fort déficit d'intelligibilité et la faute n'incombe pas qu'aux autres. Je pense que la faute nous en incombe catholique en partie. Alors dans cette optique, j'essaie de tenir très sérieusement compte d'une injonction venue du Nouveau Testament. Il y a des feuilles qui sont passées normalement. Vous avez donc, c'est le premier texte qui figure sur la feuille. Première lettre de Pierre 3,15. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui demandent de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Alors, ce texte est diversement traduit suivant les traductions. Si vous lisez la traduction liturgique, on vous dit, les gens qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Si vous lisez la Tobe, elle vous dit qu'il vous demande de justifier votre espérance. Mais le grec, c'est littéralement être toujours prêt à l'apologie, pros apologian, quand on vous demande raison, panti to daitunti emas logon, etc. Donc le grec dit qu'il faut rendre raison au sens fort, il s'agit de logos dans cette affaire. Et donc être prêt à l'apologie en se servant du logos, il me semble que c'est une belle charte, hein, pour un philosophe catholique désireux d'aller parler un peu aux gentils. Alors, de ce point de vue-là, puis je fais cette mise en place. Moi, je me sens tout à fait à l'aise dans l'Église catholique. Hein. Je pense que, enfin, d'ici quelques dizaines d'années, quand on parlera de l'histoire de la papauté dans les années 1980-2010, on parlera de l'époque des papes philosophes. C'était assez frappant, comme Jean-Paul II et Benoît XVI ont insisté sur l'importance de la philosophie, de la rationalité. Quand je veux énerver mes collègues à la fac, je leur demande quel est le dernier ouvrage écrit par une personnalité d'importance planétaire pour défendre la philosophie. Alors c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est pas François Hollande, c'est pas un ministre de l'éducation, c'est pas l'ONU, ni l'UNESCO, c'est l'encyclique Foi et Raison hein, de Jean-Paul II, et c'est quand même Benoît XVI qui a conduit une bonne partie des intellectuels occidentaux, y compris les éditorialistes et les chroniqueurs, à s'interroger le temps d'une polémique sur le statut de la raison, le fameux discours de Ratisbonne, c'était bien. Enfin, moi, ça reste un bon souvenir. Pour une fois, les gens s'emplâtraient sur quelque chose d'intéressant. Ça change du dopage des cyclistes ou le salaire des cadres. On parlait de la public tournée autour de la question de la rationalité. C'était tout à fait remarquable. De là, la question, alors qu'on peut poser aux catholiques, c'est êtes-vous toujours à la hauteur des exigences rationnelles de vos pontifs, on va dire. Et puis aux non-catholiques, on peut demander avec une pointe de malice s'il est quand même bien raisonnable de laisser au pape et à leurs coreligionnaires le quasi-monopole de la défense publique de la philosophie. Voilà. Quand est-ce que nous aurons un ministre de l'Éducation nationale qui dira la même chose que les papes sur l'intérêt et l'importance de la philo? Cela dit, ce sentiment de bien-être que j'éprouve dans l'Église va quand même avec une forme de tristesse ou d'irritation à constater que dans les milieux intellectuels où j'évolue, ça ne va pas fort pour le catholicisme, ça c'est assez clair. Et je pense que nous sommes en train de perdre la bataille idéologique, ou peut-être est-elle déjà perdue. C'est-à-dire que le christianisme est en train de cesser pour beaucoup, d'être considéré comme une proposition intellectuelle viable, recevable. C'est même pas la question de savoir s'il est vrai ou pas, ça c'est une autre question. Savoir si c'est intéressant, digne d'intérêt. Et là, il y a quand même quelque chose, me semble-t-il, qui a bougé depuis une trentaine d'années. Voilà donc le diagnostic. Alors ça définit la tâche d'un intellectuel chrétien. Pour moi qui suis... Alors ça ne me gêne pas qu'on dise que je suis philosophe chrétien, j'accepte l'étiquette. J'aime moins l'idée de philosophie chrétienne. Je pense qu'une philosophie doit être vraie avant d'être chrétienne, ou s'il y a une philosophie chrétienne, c'est parce que c'est la vraie philosophie, mais pas l'inverse. Et donc, il me semble qu'une des tâches de l'intellectuel catholique aujourd'hui, c'est d'arriver à faire saisir au gentil, mais au sens large, le grand public cultivé, que le christianisme est une affaire sérieuse, j'ai pas dit vrai, ça serait trop ambitieux, qui mérite l'intérêt, j'ai pas dit l'adhésion, ça serait trop ambitieux. Et pour ça, il faut arriver à en rendre raison avec des outils qui sont ceux de la philosophie. Alors, je vais aller vite, parce que j'ai préparé, je crois, un peu trop de textes, deux textes de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur les feuilles là qui vont dans ce sens-là. Le second, Jean-Paul II, discours aux évêques du Canada occidental en visite ad limina. Parler avec clarté, ce qui est souligné vers la fin, là, signifie que nous devons expliquer de façon compréhensible la vérité de la révélation et les enseignements de l'Église. Nous ne devrions pas simplement répéter, mais expliquer. En d'autres termes, nous avons besoin d'une nouvelle apologétique tournée vers les besoins d'aujourd'hui, qui garde à l'esprit que notre tâche ne consiste pas simplement à prévaloir dans les discussions, mais à conquérir les âmes, à s'engager non pas dans les querelles idéologiques, mais à faire valoir et promouvoir l'Évangile. Une telle apologétique aura besoin de trouver une grammaire commune. C'est cette phrase-là sur laquelle attirer votre attention, avec ceux qui voient les choses différemment et qui ne partagent pas nos affirmations, pour que nous ne finissions pas par parler des langues différentes, même si nous utilisons la même langue. Trouver une grammaire commune, en gros, c'est ce que j'ai essayé de faire sur la question du salut, c'est-à-dire déployer une problématique philosophique compréhensible par les gens d'aujourd'hui, ancrée dans les questions qu'ils se posent, et qui conduit à la façon chrétienne de poser la question du salut. Et puis, deuxième texte que je vous ai mis, c'est le texte 3, deuxième texte de Papa à l'origine, le texte 3 de Benoît XVI. Si vous regardez page page 2, j'en ai aussi souligné un petit morceau. En premier lieu, comme vous le savez, il est de plus en plus difficile dans les sociétés occidentales de parler de manière sensée de salut. Et pourtant, le salut, la libération de la réalité du mal et le don d'une vie nouvelle et libre dans le Christ est au cœur même de l'Évangile. Nous devons redécouvrir, comme je l'ai déjà dit, de nouvelles et captivantes manières de proclamer ce message et réveiller une soif de cette plénitude que seul le Christ peut donner. Voilà en gros quel était mon projet quand je me suis attelé, enfin, ou les textes aussi qui m'ont un peu accompagné quand je me suis attelé à la question du salut. J'avais rajouté un quatrième texte de Benoît XVI, mais je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Dans les gens qui ont un projet apologétique aujourd'hui, il y a une espèce de dispute, je ne sais pas si vous avez suivi ça depuis 3-4 ans, pour savoir que si le christianisme doit ou ne doit pas se positionner comme contre-culture. Il y a plusieurs textes qui ont paru à ce sujet-là, notamment à la suite d'un livre qui est un livre intéressant de Jean-Pierre Denis, le directeur de La Vie, « Pourquoi le christianisme fait scandale ?» Je ne crois pas. Je ne crois pas, bon, pour des raisons que je pourrais expliquer si vous voulez tout à l'heure. Il me semble qu'il faut plutôt, au lieu de se positionner radicalement contre la culture, une position de refus strict de la modernité, il faut plutôt aller chercher dans la modernité ce qui permet de déployer des problématiques. J'ai mis un texte, je n'ai pas le temps de le lire, de Benoît XVI qui dit ça, je crois. Dernière remarque, et puis j'en viens au thème du salut. Si j'osais, et en ayant en tête l'argument de Pascal qu'on a pris l'habitude d'appeler le pari, vous prenez un libertin, donc quelqu'un qui a envie de jouir, vous lui dites « Ah, mon ami, le libertin, t'as envie de jouir, de t'envoyer en l'air », on va prendre ça au sérieux. On va prendre ça au sérieux et on lui fait comprendre que s'il a vraiment envie de s'envoyer en l'air pour les siècles des siècles, il a intérêt à parier sur l'existence de Dieu. Alors cet argument m'intéresse parce que c'est un argument, vous voyez, qui, à la différence des arguments classiques, les preuves de l'existence de Dieu, qui sont des arguments froids, démonstratifs, c'est un argument qui prend en compte le désir humain. C'est-à-dire que c'est un argument qui dessine quelque chose comme une apologétique de la jouissance, une apologétique eudémoniste, on dirait en langage de... ou même hédoniste, peut-être en langage de philosophe. Je crois que pour l'apologétique à inventer, là dont parlent les textes que je vous ai dit, il faudrait garder la structure générale, essayer de garder la structure générale du pari de Pascal, c'est-à-dire l'idée que, dire aux gens, c'est votre intérêt, bien compris, de parier sur le christianisme, mais en faisant comprendre que le gain escompté, le gain de jouissance, le gain de vie bonne, l'est non seulement pour une hypothétique vie éternelle, ça c'est le pari de Pascal, mais dès la vie présente. Ça c'est une idée que Pascal esquisse très rapidement à la fin de l'argument, à la fin du fragment sur le pari. Et là, si on garde cette structure argumentative-là, il y a quand même du travail, parce que dans la perception que les gens ont du christianisme, il est quand même très loin d'être appréhendé comme une réponse à la question de la vie bonne. Il me semble que la façon dont les gens en général... perçoivent la doctrine de l'Église, c'est tout sauf un De Vita Beata, enfin un traité sur la vie bienheureuse. C'est sans doute en partie notre faute. Enfin, nous avons beaucoup trop insisté sur ce qu'on appelle l'éthique du devoir, en oubliant un peu la question du bonheur. Peut-être que longtemps le christianisme a suinté une forme de tristesse qui signalait une vie lasse d'elle-même et que Nietzsche a quand même bien dénoncé. Voilà, et donc il me semble que dans cette nouvelle apologétique, il faut prendre aussi en compte la question, alors je ne vais pas dire du bonheur, parce que ça suffit le bonheur, là, j'étais dans une librairie, il y a des livres sur le bonheur partout. Il y a Roger Paul Droit du Monde vient de sortir un livre pour expliquer pourquoi il en avait assez du bonheur en tant que philosophe, et peut-être c'est une notion qui prend un peu de place aujourd'hui, mais la question de la vie bonne, on pourrait dire, ou en langage, puisque j'ai parlé des deux papes précédents, autant parler de l'actuel, la question de la joie, la question de la vie joyeuse. Et je crois qu'on peut, alors c'est ce que je fais aussi pour cette nouvelle apologétique, aller chercher des appuis théoriques chez les penseurs de la joie. Il y en a un notamment qui est extrêmement puissant, à mon sens, c'est Spinoza, alors qui présente l'intérêt de ne pas être du tout catholique. On ne peut pas le soupçonner de connivence avec le... Enfin, encore que c'est Henri... mais je pense qu'on peut s'en servir pour penser le statut de la joie. Synthétiquement, c'est une phrase de Nietzsche, vous la connaissez probablement, elle est très citée, hein, texte 5 sur les feuilles, là, ainsi parlait Zarathoustra 2 des prêtres, il parle des prêtres, ou des chrétiens en général, pour que j'apprenne à croire à leur sauveur, il faudrait que ses disciples aient un air plus sauvé. Voilà, en gros, l'arrière-plan théorique de ce que j'ai tenté de faire autour de la question du salut. Alors depuis, comme Isabelle vous l'a rappelé, j'ai essayé de récidiver sur la question du mariage, donc en suggérant en quoi le mariage était lui aussi une réponse, enfin, le mariage tel que le conçoit l'Église catholique était une réponse à la question de la vie bonne. Et là encore, c'est loin d'aller de soi pour tout le monde, il y a du travail explicatif à fournir. Alors maintenant, j'essaie de nouer tous ces fils-là en revenant au thème du salut. Trois séries de remarques sur la présence du concept de salut dans le langage ordinaire et la philosophie contemporaine, sur le concept de salut en lui-même, sur une difficulté quant à l'usage chrétien de la notion, et puis pour finir, je vous soumettrai donc l'hypothèse que j'ai essayé de développer dans mon livre. Alors, si on considère l'univers du langage ordinaire, c'est tout à fait, enfin la langue dans son usage le plus courant, c'est frappant de constater à quel point la notion de salut ou celles qui lui sont corrélées, alors le verbe sauver, les substantifs sauveur, sauveteur, sauvetage, sont des mots fréquents. Je vous donne quelques exemples, mais vous compléterez vous-même, vous verrez, même c'est marrant, quand on a commencé à y faire attention, il y en a beaucoup. Tout simplement, on se dit salut quand on se croise ou qu'on se quitte. Ceux qui utilisent ce mot n'en ont pas forcément conscience, c'est un renvoi à une très ancienne pratique, alors qui date des philosophes grecs et latins, une très vénérable formule de politesse consistante à souhaiter le salut à son interlocuteur. Et on raconte que les philosophes pythagoriciens, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, se saluaient en se disant « salut » ou « santé », gyanein en grec, c'est une formule de salutation que vous retrouvez au début de la troisième lettre de Jean, dans le Nouveau Testament. Si vous lisez du Sénèque, les lettres à Lucilius, ça commence toujours par Sénèque, Lucilio, Sulo, SD. Alors SD, c'est l'abréviation de Salutem Dat. Sénèque donne le salut, souhaite le salut à son ami Lucilius. Et donc, quand les gens aujourd'hui se disent salut, hein, ou salut à toi, c'est un écho de ces formules dont la signification s'est aujourd'hui affaiblie. Alors, vous voyez, par exemple, dans cet ordre d'idée, une carte postale que j'ai achetée chez moi à Nantes, à la Maison de la Presse. Salut. Étymologiquement, aussi bien que notionnellement relié au thème du salut, les thèmes du sauveur ou du sauvetage sont récurrents dans le discours politique. Le sauveur de la patrie, les comités de salut public, le tome 3 des mémoires du général de Gaulle s'appelle le salut. Sportif, tel joueur sauve son équipe, économique, on sauve une entreprise, informatique, vous sauvegardez vos données. Ça tourne, hein, c'est une notion qui tourne. Et puis alors, plus anecdotique, mais pas insignifiant, à mon sens, si vous allez au supermarché, vous trouvez ce gel douche, Axe, lendemain difficile, anti-hangover, donc anti-gueule de bois en bon français. Alors l'emballage du produit indique sans ambiguïté que le cœur de cible est constitué par des gens qui ont beaucoup fait la fête et qui ont un peu de mal à se réveiller. Et voici comment la notice du produit, je lis, hein, décrit ses effets. Gel douche miracle, OMG plus O2, il sauve votre matinée et vous ramène à la vie, même après une nuit courte et agitée. Donc vous avez le miracle, le salut et la résurrection. Alors, concentré sur ce produit, non, je m'en sers pas. Moi, je suis un honnête père de famille catholique, je me sers pas d'un truc comme ça, mais si vous voulez, je peux vous le prêter. Mais c'est intéressant, d'accord, il faut aller chercher les gens où ils sont, au supermarché. Langage ordinaire, supermarché, ça vous confirme, ce premier repérage, que le thème du salut est encore très présent dans le langage ordinaire. Alors bien sûr, la multiplicité des usages du mot vous montre aussi que c'est un peu usé, un peu démonétisé, et en définitive, peut-être assez proche de l'insignifiance à force d'être utilisé dans des domaines très différents, mais quand même, on peut se demander si tout ça ne signifie pas, enfin, comme un écho affaibli de problématiques anciennes, des braises sur lesquelles on pourrait souffler pour essayer de redéployer quelque chose en partant de la langue et des usages contemporains. Et voilà, mon idée, c'est que, voilà, à qui cherche une prise, au sens où quand on fait de l'escalade, on cherche une prise sur une paroi lisse et c'est parfois difficile. Peut-être que le concept de salut offre une bonne prise. En tout cas, il me semble préférable pour engager une discussion et si on veut être compris, à celui de rédemption, qui est un concept concurrent ou voisin, mais auquel plus personne, et peut-être bon nombre des catholiques, ne comprend grand-chose. Alors, même chose, alors ça c'est plus surprenant, quand j'ai commencé à chercher, ça m'a étonné, si vous vous tournez du côté de la philosophie contemporaine. On a quand même l'impression que salut, c'est un vieux concept qui a peut-être connu ses heures de gloire dans le temps quand le christianisme était la vision dominante, mais que c'est aujourd'hui périmé, obsolète, enfin que dans notre univers post-chrétien, ça n'a plus guère cours. En fait, pas du tout. C'est frappant de conserver que cette notion, alors qu'elle conserve en son usage technique des connotations religieuses, est fréquente chez de nombreux philosophes qui ne sont pas réputés pour leur adhésion au christianisme, ou même se montrent critiques à son égard. Alors, je ne vais pas multiplier outre mesure les exemples et les citations, mais ça se trouve chez Spinoza. Alors, vous allez me dire, comme philosophe moderne, c'est un peu curieux, c'est du XVIIe siècle. C'est vrai, mais c'est un philosophe à la mode. Dans les milieux branchés, depuis que Deleuze, notamment, on a donné une belle lecture, c'est un philosophe qui fonctionne. Donc, c'est intéressant pour aller accrocher les gens un peu mainstream de partir de Spinoza. Et Spinoza, dans l'éthique, 536 Scoli, explique que son but est de conduire l'esprit humain à la suprême béatitude qu'il identifie au salut. Sartre, le texte final des mots, c'est le texte 7 sur vos feuilles. Dernière page des mots. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et par la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne. Sans équipement, sans outillage, je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Puis une note un peu mystérieuse d'être le néant. Ces considérations n'excluent pas la possibilité d'une morale de la délivrance et du salut. Mais celle-ci doit être atteinte au terme d'une conversion radicale dont nous ne pouvons parler ici. Bon. Wittgenstein, texte 8 sur les feuilles, donc pas pour ceux qui ne sont pas familiers de la philosophie ici, Wittgenstein, c'est peut-être le philosophe le plus important du XXe siècle, enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur, ça c'est un autre problème, mais celui qui a eu le plus d'impact. Si je dois réellement être sauvé, alors c'est la certitude qu'il me faut, non la sagesse, les rêves, la spéculation. C'est mon âme avec ses passions, pour ainsi dire avec sa chair et son sang, qui doit être sauvée, non mon esprit abstrait. Michel Foucault. Énigmatique, comme souvent. Je sais que le savoir a pouvoir de nous transformer, que la vérité n'est pas seulement une manière de déchiffrer le monde, mais que si je connais la vérité, alors je serai transformé et peut-être sauvé. Ou alors je mourrais, mais je crois de toute façon que c'est la même chose pour moi. Dernière ligne des mémoires de Raymond Aron. Je me souviens d'une expression que j'employais parfois quand j'avais 20 ans dans des conversations avec des camarades et avec moi-même. Faire son salut laïque. Avec ou sans Dieu, nul ne sait, à la fin de sa vie, s'il est sauvé ou perdu. Grâce à eux dont j'ai si peu parlé et qui m'ont tant donné, je me remémore cette formule sans peur ni tremblement. Et puis dans les philosophes qui ont choisi de s'adresser au grand public, mais qui dans ce registre-là me paraissent respectable. Luc Ferry, c'est quelqu'un qui fait du concept de salut quelque chose d'assez central dans ses ouvrages. Dans un livre d'entretien avec le cardinal Barbarin, là, Ferry disait, j'ai photocopié la phrase, qu'il défendait, je cite, « une philosophie qui serait, alors c'est ambigu, hein, comme la religion, une doctrine du salut, mais lucide, par la raison et par soi-même, j'en reparlerai tout à l'heure, plutôt que par Dieu et par la foi. Bon. » Donc j'arrête là, mais vous voyez, la notion de salut est-elle encore présente dans la pensée contemporaine? Oui, et c'est même étonnant, avec trois points communs dans les textes dont je viens de vous parler. Un, le thème du salut est quand même relativement inattendu. Deux, on voit bien qu'il s'agit d'une notion importante qui préoccupe la personne qui écrit les lignes. Trois, le contexte de ces textes, et pour autant que je le sache, l'ensemble des œuvres de ces auteurs, ne permet pas de se faire une idée précise de ce que c'est que le salut dont il parle. C'est-à-dire, s'il y a des spécialistes de Sartre, Foucault ou Wittgenstein parmi vous, je veux bien qu'ils viennent m'expliquer à la fin ce que c'est que le salut selon Sartre, Foucault ou Wittgenstein, parce que je n'ai pas trouvé de texte qui le déterminerait. Donc là encore, sorte d'angle mort de la pensée contemporaine. C'est présent, mais sans être vraiment thématisé. Mais peut-être un point d'entrée. Cela dit, une fois ce repérage effectué, donc il faut quand même essayer d'expliquer de quoi on parle quand on parle de salut. Donc, second temps, une esquisse d'analyse conceptuelle de la notion. Alors, historiquement, chez les Latins, chez les Grecs, hein, c'est un mot qui a d'abord signifié le fait d'être ou de demeurer intègre, en bonne santé, sain et sauf, quoi. Donc être sauvé, c'était être guéri, et le salut, c'était la santé physique, mais aussi morale ou spirituelle. Alors vous sentez bien qu'il y a eu une espèce de glissement de la notion. Aujourd'hui, de façon plus abstraite, le salut désigne le fait d'être parvenu à un état de vie considéré comme souhaitable, et puis le processus, alors on appelle ça le sauvetage. En ancien français, on disait encore la salvation, le mot est passé en anglais, mais on ne sert plus en français, le processus qui permet de parvenir à cet état en étant tiré d'une situation, d'un danger, d'un problème qui nous en éloigne. Donc on distingue en fait dans le mot salut deux aspects, hein, là où d'autres langues les distinguent peut-être mieux. Il y a un aspect, dans le mot salut en français, il y a un aspect négatif par où le salut s'entend comme délivrance et libération. Sauvetage, arrachement à une situation de péril. On se trouve sous le coup d'une menace importante. Et puis, il y a un aspect plus positif. Le salut, c'est l'octroi d'un bien. L'accession à une situation considérée comme bénéfique, souhaitable. Le fait de passer d'un état de malheur et d'épreuve à un statut de bonheur et d'accomplissement. Alors, ces deux éléments sont présents, je crois, dans toute théorie du salut. Une théorie du salut, le gros mot pour ça, c'est sotériologie, hein, dont je vais l'utiliser à présent. Dans toute sotériologie, vous avez un diagnostic, on va dire, pessimiste concernant notre situation présente et une affirmation plus optimiste concernant la possibilité d'en sortir. J'insiste bien sur ces deux éléments qui me paraissent constitutifs de toute sotériologie. Donc, un, diagnostic initial, nous sommes dans un état pénible, dangereux, nous y sommes de façon relativement inévitable, structurelle, et il faut nous en arracher. Si vous évoluez dans un univers de pensée optimiste, où vous pensez que tout naturellement, tout va bien et va continuer à aller au mieux, vous n'avez pas besoin du concept de salut. Voilà, pas pour vous. Donc, diagnostic pessimiste, et puis affirmation concernant la possibilité d'en sortir. Vous pouvez très bien être d'accord avec le point numéro 1, ça ne va pas, mais vous estimez de façon pessimiste que nous sommes voués à demeurer dans cet état de malheur, de déchéance, de misère. Alors, pensez aux grands pessimistes chez les philosophes, je ne sais pas, Schopenhauer, Cioran. Chez ces gens-là, le concept de salut, ça ne sert à rien, hein, parce qu'il manque le deuxième volet. Donc voilà, en gros, la structure générale de toute théorie du salut. Et une fois ceci posé, alors on peut distinguer différents types de théories du salut, donc différentes sotériologies avec différents critères. Alors je vous en propose quelques-uns à toute allure. Vous pouvez distinguer alors les théories qui proposent le salut par soi-même. On pourrait appeler ça des auto-sotériologies, si on veut faire des gros mots grecs. Et puis les théories qui proposent un salut obtenu par autrui. Alors, autre chose que moi-même, les hétérosotériologies. Je vais revenir sur cette distinction qui me paraît importante pour penser le salut chrétien. Vous pouvez distinguer en fonction de la façon dont on parvient au salut. Il y a des doctrines individualistes, où le salut est atteint individuellement. Des doctrines où il est atteint de façon collective, en groupe, par une communauté, une nation, une église, l'humanité. Vous pouvez distinguer en fonction de l'extension de la classe des sauvés. Il y a des doctrines où seuls quelques-uns sont sauvés, un petit groupe. Des doctrines où la majorité des individus sont sauvés. Alors, il y a des doctrines qui sont traversées par des tensions entre ces... De là, par exemple, le christianisme, suivant les époques, il y a des époques où... la massa damnata ou la massa perditionniste d'Augustin, il y a des époques où on envoie, semble-t-il, beaucoup de monde en enfer, et puis il y en a d'autres où, comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que tout le monde ira au paradis. Bon, c'est... Alors, il y a des oscillations. Vous pouvez distinguer en fonction du lieu où on obtient le salut. Il y a des doctrines où le salut est obtenu dès cette vie. Des doctrines qui le réservent pour un autre monde. Et peut-être vous pouvez vous demander, si vous êtes familier du christianisme, dans quelle catégorie vous placez, dans celle que je viens d'esquisser, vous placez le christianisme. Vous pouvez distinguer les doctrines en fonction de la nature du sauveur. Il peut s'agir d'un dieu. Alors, ça fait une théosotériologie. Il peut s'agir d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Vous pouvez distinguer en fonction du degré d'accomplissement du salut auquel on parvient, les doctrines où le salut est partiel, d'autres où il est total, d'autres où on articule un processus d'actualisation du salut qui commencerait dès à présent mais ne serait définitivement obtenu que plus tard. Et puis vous pouvez aussi faire varier les doctrines en fonction de la nature du salut obtenu. Le plus souvent c'est le bonheur. Mais outre les difficultés bien connues pour s'entendre sur la définition de ce terme, rien n'interdit de penser que un salut dont le contenu consisterait en autre chose. Alors, à titre d'exemple, vous voyez, on peut considérer que le marxisme tel qu'il s'est présenté au XIXe et XXe siècle s'apparentait à une théorie du salut ou à une transposition sécularisée d'une théologie du salut. C'est pas original, ce que je vous dis là, vous trouvez ça notamment dans un livre de Karl Levitt, Histoire et salut, les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire. Alors, si j'essaie de faire jouer tous les critères là dont je viens de vous parler, le marxisme, donc, c'est une sotériologie alors, qui mêle conception auto-sotériologique, donc les hommes se sauvent eux-mêmes, mais avec l'appel à un groupe d'hommes qui joue un rôle particulier, c'est le prolétariat ou son avant-garde éclairée dans certaines versions, donc qui occupe de façon transitoire la fonction de sauveur, pour produire un salut auquel parviennent tous les hommes, le genre humain, au terme d'une démarche collective et qui consiste en un bonheur complet obtenu dès cette vie. Voilà, donc je viens, en faisant jouer les différents critères que je vous avais proposés, de vous caractériser ce qu'est la sotériologie marxiste. Plus largement, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui l'idée de salut, telle que je viens de la préciser, a encore un sens, ou beaucoup de gens à qui, en discutant un petit peu, on peut arriver à faire admettre que cette notion est toujours pertinente, opératoire, rencontre leurs préoccupations. Alors, simplement, cette notion, c'est une notion qui peut très bien se greffer sur l'insatisfaction grandissante qu'on ressent chez beaucoup de personnes vis-à-vis de certains aspects de la mondialisation et du modèle hyper-consumériste dans lequel nous sommes pris, souvent contre notre gré. C'est-à-dire qu'il y a tout un jeu de forces, de structures, d'égoïsmes incontrôlés qui nous conduisent quasi inévitablement à une situation peu souhaitable, diagnostic pessimiste, et il y a quand même un désir ou une volonté de se sortir de cette situation évoluée négativement. Donc là encore, c'est un terrain assez favorable au développement d'une sotériologie. Et troisième terrain qui me paraît assez favorable, malheureusement, mais le monde est comme ça, c'est la vie conjugale. Vous connaissez comme moi les chiffres. En France, en 2012, 246 000 mariages, 130 000 divorces. Quand vous rencontrez un peu des couples aujourd'hui, le cri qui monte, c'est « Sauvez-nous, nous périssons ». C'est une espèce de problème de la conjugalité contemporaine. Là encore, je crois, diagnostic d'une situation compliqué et désir de s'en sortir s'articule. Donc là aussi, peut-être, c'est un lieu où on peut faire fonctionner le concept de salut. Alors maintenant que j'ai précisé ce concept, je le restreins en m'intéressant un peu plus précisément au concept chrétien de salut. Que le christianisme soit une théorie du salut, c'est écrit dans le nom de son fondateur, Yeshua, Dieu sauve. Que le concept de salut soit quelque chose de central dans le christianisme, c'est une évidence. Alors, c'est même frappant comme la séquence « Salut, sauveur, sauvé », nous cherchons le salut, le Christ est notre sauveur, par lui nous sommes sauvés », imprègne profondément le lexique chrétien, et pas seulement dans les ouvrages de théologie savante, ou dans les spéculations des intellectuels, mais aussi dans la pratique la plus courante. Alors, quand j'écrivais ce livre. Chez les catholiques, j'ai fait le test. Je suis allé à la messe dans ma paroisse, donc c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Nantes, le deuxième dimanche de carême 2010, et j'ai compté. J'ai compté le nombre d'occurrences de salut sauveur sauvé en une heure de messe, et on était à plus de 20. Donc c'est pas rien. Donc ça ne rend pas totalement superflu de se demander quel est le sens spécifique pour un chrétien de ce concept de salut, de quoi devons-nous être sauvés et comment cela se passe-t-il. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité du concept chrétien de salut par rapport à toutes ces théories du salut contemporaines que j'ai évoquées? Je crois qu'il y a au moins un trait qui différencie nettement la théorie du salut chrétienne de celle qu'on trouve dans certaines sagesses antiques, dans certaines philosophies classiques, chez Spinoza, chez Luc Ferry, etc. Toutes ces pensées insistent sur l'autonomie, l'autosuffisance de l'individu humain ou de l'humanité. Le christianisme, lui, insiste sur la nécessité de l'intervention d'un sauveur. C'est-à-dire que toutes les théories du salut moderne mettent en avant l'idée d'un salut que l'homme ou l'humanité collectivement envisagée peuvent obtenir par eux-mêmes, par leur propre activité, en usant au mieux de leur seule force et de leur capacité naturelle, notamment de leur raison, quand on fait de la philosophie, dans un processus qui s'apparente à une sorte d'auto-salut. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté que sur les murs de la faculté de Nanterre en 1968, quelqu'un avait écrit « Ne me libère pas, je m'en charge ». Il me semble que le slogan « Ne me sauve pas, je m'en charge » pourrait caractériser bon nombre de sotériologies contemporaines. Alors le salut chrétien, c'est pas ça. Le salut chrétien, c'est pareil comme un salut venu d'ailleurs, hein, venu d'un autre, donc un hétéro-salut, qui suppose une intervention divine, extérieure, surnaturelle, celle d'un sauveur, ou encore, si on passe sur le plan des contenus intellectuels, celle d'une révélation. Une révélation, si on entend par là, un contenu de savoir que la raison humaine ne peut pas constituer par ses propres moyens, hein, qui lui est apporté d'ailleurs. Et donc, il me semble que la thématisation chrétienne du salut intègre une dimension, sinon de passivité, hein, du moins de réceptivité, de dépendance, d'incomplétude, de vulnérabilité, d'hétéronomie. Prenez la notion qui vous parle le plus là-dedans. Bref, l'opérateur du salut, c'est l'autre. Et même l'autre avec un majuscule. Alors c'est peut-être ça qu'il est compliqué de faire comprendre à nos contemporains, aux gentils. Léon Brunswick, alors qui est cité par Congar, mais dans Vaste Monde, ma paroisse, Congar cite Léon Brunswick, mais il ne donne pas la référence, je ne peux pas vous donner la référence du texte. Congar dit, Brunswick disait, l'homme moderne est celui qui n'a pas besoin de salut. Alors ça, je ne suis pas si sûr. Enfin, c'est peut-être vrai quand Brunswick écrivait, donc il y a 100 ou un peu plus de 100 ans, quand on baignait encore dans une espèce d'optimisme rationaliste issu des Lumières, une espèce de confiance dans les capacités de l'humanité à voir faire le bien, progresser par elle-même. C'est une atmosphère qui est très bien décrite dans un roman de Roger Martin Dugard qui s'appelle Jean Barrois. Si vous n'avez pas lu ça, c'est un beau texte. Il me semble qu'aujourd'hui, on en a un peu rabattu sur cette atmosphère-là. Il me semble que une bonne partie des modernes estiment qu'ils ont besoin de salut. En revanche, ils pensent majoritairement qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Tout seul, modèle individualiste prédominant. Je vous rappelle que le mot anglais qu'on traduit en français par développement personnel, c'est self-help, s'aider soi-même, tout est dit. On peut aussi, des gens qui considèrent qu'ils peuvent, par leur seule force, mais en groupe, se sauver, ça serait le modèle marxiste. Autre modèle, peut-être le modèle du couple, se sauver à deux. De là peut-être l'intérêt ou la fascination qui demeure malgré bien des soubresauts pour le modèle du couple, mais peut-être ça amène à nuancer certains diagnostics un peu rapides d'individualisme, hein, dans la relation amoureuse, c'est aussi de l'autre qui est attendu le salut du moi. Mais enfin, dans tous les cas, voyez, ça reste horizontal par les seules forces humaines. Le psychanalyste américain, Ernest Becker, dans le livre, ça n'a pas été traduit en français, The Denial of Death, donc le déni de la mort, dit le projet du moderne, c'est le causa sui project, c'est-à-dire être cause de soi. En théologie, enfin même pas classique, mais dans une certaine théologie, c'est pour Dieu, cause de soi. Bon, la modernité a sécularisé ça, donc cette idée que nous devons être cause de nous-mêmes. Je crois que ça fonctionne assez bien, l'idée de causa sui project ou de self-help, hein, dans l'image que les gens se font de la sotériologie. Alors c'est là que le christianisme fait entendre quelque chose de différent, très clairement, une autre petite musique. Et c'est à cette condition-là que le concept chrétien de salut peut encore avoir du sens, c'est-à-dire il faut arriver à faire admettre aux gens qu'ils ne peuvent pas se sauver tout seuls par les moyens disponibles ici et maintenant et par leur propre force. Ça, ce n'est peut-être pas si évident. Si j'applique ça là, à l'autre domaine qui m'a préoccupé ces temps-ci, c'est-à-dire aux divorces et aux séparations, dans les couples qui traversent des crises, des graves crises, les rares que j'ai vus s'en sortir, c'est ceux qui ont demandé de l'aide, qui ont été cherchés ailleurs qu'à deux, la solution, enfin, mais ils ne s'en sont pas sortis par leur propre force. Il a fallu qu'il y ait un élément extérieur qui intervienne. Alors, pour finir, je vais vous poser, enfin, pour avant-dernier moment, une question un peu provocatrice, qui consiste à se demander si le concept chrétien de salut a encore un sens pour les chrétiens eux-mêmes. Je m'explique. Que Dieu nous sauve, qu'il soit le sauveur, et que ce dont il nous sauve, c'est le péché. Alors, il resterait, je vais laisser ça dans l'ombre pour le moment, à s'entendre sur ce que c'est que le péché, mais c'est un autre problème. Bon, ça constitue une sorte d'évidence pour les chrétiens. C'est même tellement évident, vous voyez, qu'à la différence d'autres thèmes ou notions centrales du christianisme, alors pensez à la Trinité, au caractère à la fois humain et divin de Jésus, etc., cette idée n'a jamais été contestée ou niée par l'un ou l'autre des courants importants du christianisme, et donc elle n'a jamais fait l'objet d'une mise au point, d'une clarification dogmatique. En théologie trinitaire, les gens se sont disputés, il y a eu des conciles, ils se sont mis... Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont gagné, et puis les définitions ont été établies. Pour le salut, rien. Pour le salut, vous avez juste le symbole de Nicée et Constantinople qui vous dit que le Christ est venu pour nous les hommes et pour notre salut. Pas plus loin que ça. Vous avez une mention du thème de la satisfaction dont je vais reparler dans un texte de la 6e session du Concile de Trente, mais sans explication. Et il paraît... alors. Quand on regarde les schémas préparatoires du Concile Vatican I, donc en 1869-70, que ce concile avait envisagé une définition de la rédemption, mais ces textes n'ont pas été discutés ni votés parce que le concile a été interrompu par l'entrée des troupes italiennes dans Rome. Peut-être la Providence n'a pas voulu qu'on dogmatise ce que le Concile s'apprêtait à faire. Bon. Du coup, alors, oui, quand j'ai commencé à travailler, on se plaint toujours que chez les catholiques, c'est cadenassé, on n'a pas de place pour réfléchir et tout. Là, on peut y aller. Le champ est relativement libre. Dans le christianisme latin, cela dit, vous avez depuis 1000 ans une explication dominante, qui est la théorie de la satisfaction. Ça vient du latin satisfacere, en faire assez, mise au point par Anselme de Canterbury au XIe siècle, dans un livre qui s'appelle Le cours Deus Homo, pourquoi un dieu homme. Alors, livre qui a, enfin, je ne sais pas si il y a sûrement des théologiens dans la salle, j'en parle en ignorant, hein, mais qui a extraordinairement marqué la théologie ultérieure, au moins de l'Occident latin. Alors, cette théorie, vous la connaissez forcément, parce que vous avez plus ou moins baigné dedans. Je la cite en me couvrant de l'autorité de Joseph Ratzinger, c'est le texte 12. Enfin, je la synthétise en me couvrant de l'autorité de Joseph Ratzinger, c'est le texte 12. Par le péché de l'homme qui était dirigé contre Dieu, l'ordre de la justice a été lésé d'une manière infinie et Dieu a été offensé d'une manière infinie. Le droit ainsi lésé doit être rétabli parce que Dieu est le Dieu de l'ordre et de la justice, il est la justice même. Mais vu la mesure de l'offense, une réparation infinie est nécessaire. Personne ne peut en faire assez, satisfacere, donc là, bien l'idée de satisfaction, offrir satisfaction à Dieu, l'homme n'en est pas capable. Comment sortir de cette situation? C'est ici qu'Anselme en arrive à la figure du Christ. Sa réponse est la suivante, Dieu lui-même efface l'injustice, l'infini lui-même se fait homme, et en tant qu'homme, appartenant à la race des offenseurs et possédant néanmoins le pouvoir de réparation infinie refusé aux simples hommes, il fournit la satisfaction exigée. Anselme croyait avoir apporté par là la réponse du pourquoi de l'incarnation et de la croix. Le Christ devait mourir en croix pour réparer l'offense infinie qui avait été faite et restaurer ainsi l'ordre brisé. Bon. Plus qu'Anselme lui-même, les tenants du thème de la satisfaction ont par la suite insisté sur le rôle joué dans ce processus par la passion du Christ au sens strict, donc sa souffrance en croix, encore son sang. Si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la passion du Christ, ça s'inscrivait assez clairement dans cet horizon-là. Ça doit plus faire beaucoup, quand vous étiez plus jeune, certains d'entre vous, vous avez chanté le minuit chrétien, la messe de minuit, vous vous souvenez peut-être, et de son père effacé le courroux, hein, ça se situait aussi dans cette ligne-là. Bon, alors cette explication, moi je ne suis pas théologien, je ne la juge pas, elle a longtemps été dominante, et en gros jusqu'au XIXe siècle, ça a convenu aux gens. Alors peut-être que l'idée de transaction, de sacrifice compensatoire était plus facile à appréhender pour la mentalité médiévale au moins que pour la nôtre. Bon, on ne peut que constater aujourd'hui que c'est devenu, comme on dit, inaudible, hein, ou étranger à nos contemporains, c'est-à-dire que de l'intérieur comme de l'extérieur du christianisme, il est extrêmement fréquent de lire des dénonciations de l'aspect juridique de cette théorie, de sa dimension sacrificielle, de transaction compensatoire, son caractère vengeur, vindicatif, doloriste, et de la façon dont ça concentre toute l'œuvre de salut du Christ sur la souffrance au moment de la croix. Je vous ai photocopié deux textes parmi d'autres qui expriment ce rejet. Extérieur au christianisme, Nietzsche, Antéchrist, paragraphe 41. Comment Dieu pouvait-il permettre cela, la mort de Jésus? La raison troublée de la petite communauté trouva une réponse, d'une absurdité vraiment terrible. Dieu donna son fils pour le pardon des péchés en sacrifice. Ah, comme tout à coup s'en fut fini de l'évangile. Le sacrifice expiatoire, et cela sous sa forme la plus répugnante, la plus barbare, le sacrifice de l'innocent pour les fautes des pécheurs, quel paganisme épouvantable. Bon. Et puis de quelqu'un qui, lui, n'est pas aussi hostile que Nietzsche aux choses du christianisme, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Non seulement Dieu réclamerait une nouvelle victime, mais il réclamerait la victime la plus précieuse et la plus chère, son fils lui-même. Ce postulat a plus fait que toute autre chose, sans doute pour discréditer le christianisme aux yeux des hommes de bonne volonté dans le monde moderne. Tolérable encore pour la mentalité médiévale, il est devenu intolérable pour le nôtre et constitue la pierre d'achoppement par excellence d'un monde pour un monde tout entier révolté par le sacrificiel. Bon, alors, je laisse aux théologiens dans la salle l'évaluation de la validité de la théorie de la satisfaction. Je crois qu'elle garde une certaine puissance conceptuelle. D'un autre côté, il faut bien remarquer que les gens ne la comprennent plus. Bon, ils ne la comprennent plus. Et elle pose quand même une difficulté théologique de fond, c'est qu'elle concentre tout entière l'œuvre du salut du Christ sur la passion et la mort. Enfin, tout entière, non, peut-être pas, mais d'autres aspects de son existence, notamment son incarnation, ou plus encore peut-être sa résurrection, sont relativement laissés de côté. Et donc, il est tentant de chercher une autre explication à la façon dont le salut s'opère, parce que, je voulais quand même dire ça en guise de synthèse, pourquoi il y a un problème dans le christianisme contemporain, c'est que le thème du salut, du sauveur, etc., il reste absolument central, on en a parlé. Maintenant, quand on demande aux gens, d'accord, mais comment ça marche? Quel est le modus operandi? Là, c'est tout de suite plus compliqué. Et peut-être que la satisfaction, c'est inaudible, sanglant, sacrificiel et tout ce qu'on voudra, mais c'est au moins un effort d'intelligence de la foi. Alors, on en arrive au titre que j'ai donné à cette intervention ce soir, d'intelligence du salut, un effort d'explication pour rendre intelligible ce qu'on proclame croire, pour répondre à la question « le salut, comment ça marche ?» De sorte que aujourd'hui, quand nous refusons assez globalement la théorie de la satisfaction, nous sommes, du point de vue de l'intelligibilité, en retard sur les médiévaux. Bon. En retrait, au moins, par rapport aux médiévaux. Alors ça me met mal à l'aise, parce que ça tend à offrir du christianisme l'image d'une pensée magique, ce que je crois il n'est pas, hein, d'accord. Abracadabra, le lapin sort du chapeau, hop, le Christ est là, et toc, nous sommes sauvés, ben, d'accord, mais comment? Et ça renvoie donc au problème du fidéisme dont je vous parlais pour commencer. Et donc, en guise de dernière partie de mon exposé, je vais vous parler deux minutes de ce que j'ai proposé mon livre sur le salut, donc, enfin, et dans d'autres endroits, en tentant de rendre intelligible pour un lecteur contemporain peu familier, voire éloigné des choses du christianisme, avec des outils et des démarches philosophiques, alors j'insiste là-dessus, je fais de la philosophie, ce thème central de la religion chrétienne qui est le salut, et j'ai essayé de proposer une explication de nature philosophique à la question « le salut, comment ça marche ?». Alors pour ça, j'ai essayé de prendre, j'ai un tout petit peu lu de théologie quand même, de prendre en compte une tendance assez lourde dans la théologie contemporaine, qui est le corrélat de la critique de la théorie de la satisfaction dont je viens de vous parler. C'est le refus d'une interprétation exclusivement sacrificielle ou expiatoire du salut, et donc pour réclamer que cesse dans la réflexion sur le salut la marginalisation de la résurrection, de l'incarnation, et la focalisation exclusive sur la passion et la mort de Jésus. C'est une idée, alors quand vous lisez l'idée qui est quand même assez prégnante dans la théologie contemporaine, c'est qu'on s'est trop focalisé sur la seule croix. Alors si vous lisez, c'est vraiment frappant, si vous lisez des théologiens du 15e, 16e siècle, Cachetan, un grand commentateur de Thomas d'Aquin, si vous lisez ce qu'il dit sur le salut, tout est concentré sur la souffrance et la mort du Christ. Et la résurrection, ça sert à quoi? Il dit, ah ben, la résurrection, c'est une sorte de coup de pub a posteriori. Ça sert à un petit truc un peu spectaculaire pour attirer l'attention des gens sur le... Voilà, mais bon, c'est pas intégré dans la sotériologie. Donc il me semble, pour le peu que j'ai lu de théologie, que c'est quand même quelque chose qui fait l'art du temps de la théologie du salut, c'est-à-dire que dans la seconde moitié du XXe siècle, la sotériologie chrétienne est devenue une interprétation pascale du destin singulier du crucifié. Alors on voit bien la thèse générale que ça entend promouvoir, texte 15 sur la feuille, j'ai mis un texte du cardinal de Lubac, en ces lieux, retrouver la victoire du Christ et rendre à la résurrection du Christ dans les traités du salut la place capitale qu'elle n'aurait jamais dû perdre, et puis un texte de Bernard Sesbouet, la résurrection a une dimension proprement salvifique, donc voilà des affirmations fortes. Après, ce programme se révèle, alors le père Sesbouet a fait des choses là-dessus, peut-être plus problématique en tout cas dans l'explication donnée à cette thèse générale, et donc c'est ça que j'ai tenté de faire, c'est de donner un sens philosophique à la proposition « La foi en la résurrection du Christ nous sauve, nous libère du péché ». Pour le dire autrement, je suppose que je dis des bêtises, donc les théologiens dans la salle, vous me reprendrez très 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 schématiquement. J'avais fait un tableau, puis au dernier moment, je me suis dégonflé, je l'ai ôté, je me suis dit « Non, je peux pas mettre ça ». Il me semble que si on prend les trois événements marquants de la vie de Jésus, incarnation, passion, résurrection, vous avez chez les pères de l'Église et encore chez les orientaux des théories du salut, on va dire de la divinisation, qui insiste beaucoup sur la portée de l'incarnation. Vous avez eu la ligne anselmienne, mais qui va loin, qui va jusqu'à Hans-Urs von Balthasar avec sa théorie de la substitution et encore dans ce champ-là, qui concentre sur l'efficace salvifique du Vendredi Saint. D'accord. Et puis vous avez des théories qui n'ont pas encore de nom, qui insisteraient sur la puissance de la résurrection, salvifique de la résurrection, donc on va dire non plus le vendredi, mais aussi le dimanche. Alors ceci posé, je vous résume à très grands traits ce que je propose. C'est seulement une proposition parmi d'autres, sans exclusive, bien sûr, pour répondre à la question « Le salut, comment ça marche ?». Alors quatre moments. Donc, parce que je donne des... Quatre moments, je les annonce, puis j'explique un petit peu. Les trois premiers étant de philosophie toute pure, et le quatrième passant du côté de ce que j'appellerais la théologie philosophique. Un moment sur les croyances, un moment sur la mort, un moment sur les fautes morales, et un moment sur le salut. Alors j'avance les thèses assez rapidement, de toute façon j'ai plus beaucoup de temps, puis si vous voulez après on pourra en discuter. Alors sur les croyances, thèse 1. Je pense, je défends l'utilité, alors en me plaçant notamment sous les auspices d'un philosophe qui s'appelle William James et sous ceux de Spinoza dans le traité théologico-politique, l'utilité d'une approche de type pragmatique des croyances. C'est-à-dire que quand on considère les contenus des croyances, quelle qu'elle soit, il faut non seulement s'inquiéter de leur valeur de vérité, se demander c'est vrai, c'est faux, mais aussi s'intéresser aux effets de cette croyance, en ce qu'elle produit chez celui qui croit. Alors, je n'ai pas dit que les deux questions étaient exclusives l'une de l'autre. Je ne fais pas partie des sceptiques ou des postmodernes qui disent seuls les effets comptent, la vérité n'importe pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a deux façons de se rapporter aux croyances. C'est vrai, c'est faux, et puis ça produit ou non tel effet chez ceux qui les adoptent. Et donc, en fonction de ces effets produits, on peut classer les croyances. Alors, il y a des croyances, je donne deux critères de classification, il y en a d'autres. Il y a des croyances, on pourrait dire, à effet existentiel faible. Je crois qu'il va faire beau demain, bon, ça ne va pas bouleverser ma vie. Ça aura un petit effet existentiel sur ma façon de m'habiller, le fait que je prenne mon parapluie ou pas, mais ça ne sera pas... Et puis, il y a des croyances à effet existentiel fort. Important, des croyances qui engagent tout l'être et qui commuent l'existence. Donc, premier critère, effet fort, effet faible. Et puis, dans les effets, on peut dire qu'il y a des croyances qui induisent chez ceux qui les adoptent des pratiques correctes ou bénéfiques. Alors, c'est des croyances qu'on pourrait appeler, si on veut faire des mots grecs, orthopraxites, qui produisent de la pratique droite, ou eupraxiques, qui produisent de la pratique bonne. Enfin, faudrait dire orthopraxigène ou eupraxigène, mais là ça devient vraiment très moche, donc j'ai évité. Et puis il y a des croyances qui produisent des pratiques incorrectes ou nocives. Donc on pourrait appeler ça des croyances dyspraxiques. Donc thèse 1, considérer l'efficace des croyances, et puis là considérer si elles sont importantes ou pas en termes d'effets, et dans les effets, considérer si les effets sont bénéfiques ou non. Thèse 2, sur la mort. Alors, je défends l'idée, philosophiquement assez banale je crois, que la nature de la mort, et singulièrement la nature de ma mort, à moi, envisagée en première personne, dirait Yankelevitch, ne peut être pour nous qu'un objet de croyance. Il n'y a pas de savoir positif sur la mort, enfin sur ma mort en tout cas, par exemple au nom de l'argument épicurien qui dit que, enfin qui insiste sur le fait que ben, tant que je suis là, la mort n'y est pas, et quand la mort y est, je n'y suis plus. Donc on ne peut pas se prononcer de façon spéculativement assurée, me semble-t-il, sur la nature de la mort. Et donc c'est une des questions où on va tomber dans le domaine de la croyance et où se pose la question de savoir quelles sont les croyances bénéfiques ou nocives que nous entretenons à ce sujet-là. Et thèse 2b sur la mort toujours, sans grande originalité, sans grande généralité, il me semble que notre croyance naturelle sur la mort, c'est que nous la concevons comme la fin de la vie, et que de la mort comprise comme fin de la vie, dans la plupart des cas, nous en avons peur. Alors c'est une expression un peu passe-partout, la peur de la mort, je suis prêt à la clarifier s'il le faut, mais enfin, globalement, ça va depuis le refus instinctif hein, qui nous est commun avec les animaux de ce qui nous menace, et que nous cherchons à éviter, jusqu'à des formes beaucoup plus intellectualisées, penser aux grandes évocations artistiques de la mort, au Requiem de Mozart, à ce que Heidegger a pu dire de l'angoisse, etc. Donc thèse 2, notre croyance spontanée sur la mort, c'est quelle est la fin de la vie, et à la mort ainsi conçue, nous nous rapportons de façon généralement apeurée. Bon. Thèse 3, alors c'est là qu'on rentre dans le dur. J'ai essayé de montrer, alors en me servant, parce que je reste dans l'optique apologétique, d'un texte de Lucrèce, donc le philosophe épicurien du siècle avant Jésus-Christ, donc qui n'est pas suspect de connivence avec le christianisme, par définition, puisque c'est un philosophe athée, matérialiste, enfin bon, que cette peur de la mort est à l'origine d'une série de mauvaises actions, considérées comme telles. C'est-à-dire que l'effet, l'efficace dans nos vies de la croyance commune sur la mort, telle que je viens de vous en parler, c'est de provoquer une série de mauvaises actions et par là nous rendre malheureux, nous conduire à gâcher nos vies. C'est-à-dire que la croyance standard sur la mort est une croyance à efficacité existentielle forte et nocive. simplement, Lucrèce, alors dans le texte que je vous ai photocopié, c'est le texte 16, mais je n'ai pas le temps de le lire, vous pouvez le voir après. Lucrèce n'en dit pas beaucoup plus. Il affirme une connexion entre peur de la mort et vie ratée, et vie gâchée. Mais il ne rentre pas dans le détail, et à ma connaissance, ça fait partie des textes qui, en plus, n'ont pas vraiment d'équivalent dans ce qui nous reste d'Épicure. Donc, voilà. Alors, j'ai essayé de montrer, ça je vais pas rentrer dans le détail, comment six mauvaises actions, six fautes, appelez ça comme vous voudrez, dont il me semble que la quasi-totalité des honnêtes gens, alors pas tout le monde, parce qu'en morale, il y a toujours quelques esprits forts, un peu, mais on va les laisser de côté, ceux-là. Six séries d'actions dont il me semble que la quasi-totalité des honnêtes gens s'accordera à les trouver mauvaises, sont dues à la peur de la mort. C'est-à-dire, sont produites dans nos vies par le fait que nous nous rapportons de manière apeurée à la mort comprise comme la fin de la vie. Alors, ces six séries de mauvaises actions, ce sont l'avarice et la cupidité, vous appelez ça comme vous voulez, donc l'amour immodéré de l'argent. Ça, je pense qu'il y a de bonnes raisons, si vous voulez, je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors, ce sont les textes 17 et 18 de Peggy et celui de Marx, notamment. Une bonne raison de prétendre que l'avarice, dans ses formes pathologiques, a quelque chose à voir avec la peur de la mort. La gloutonnerie, ce qu'on appelait dans le temps la gourmandise, mais je préfère gloutonnerie, c'est l'idée que nous mangeons trop, nous consacrons trop de temps et d'argent à la nourriture alors que nous sommes déjà bien nourris et que des tas de gens ne mangent pas. Je ne m'exempte pas du lot, hein, je fais partie des gens qui se comportent comme ça de temps à autre. La gloutonnerie, la luxure. Alors la luxure, c'est plus compliqué parce qu'il faut s'entendre sur ce qui est ou pas luxurieux. Par les temps qui courent, c'est difficile, mais il y a quand même des actes luxurieux que la conscience commune réprouve, hein, tout ce qui est fait sous la violence, la contrainte, ce qui est d'ordre de la trahison. Donc je ne veux surtout pas dire que la jouissance sexuelle en elle-même est une mauvaise chose, mais qu'une recherche désordonnée de la jouissance sexuelle, donc on pourrait dire une construction orgasmocentrée de l'existence, qui prétendrait faire de l'orgasme le souverain bien. Enfin, il y a de bons arguments en faveur de cette thèse. Hein. C'est pas une thèse absurde. Donc la recherche désordonnée de l'orgasme, qu'on appelle la luxure. L'homicide, alors là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est une mauvaise chose. L'abandon des vieux malades, et singulièrement de ses vieux parents. Et enfin, l'orgueil. Alors, liste qui peut évoquer certaines listes de péchés capitaux, mais ils n'y sont pas tous. Et puis, je vous rappelle que les péchés capitaux, ce n'est pas les plus graves. Hein, c'est ceux qui sont à la base d'où tous les autres jaillissent. Donc, j'ai essayé de montrer dans une série d'analyses que c'était la peur de la mort, conçue comme fin de la vie, qui était à l'origine de ces mauvaises actions. Mauvaises au double sens où elles sont moralement condamnables et où elles sont existentiellement toxiques, nocives, où je crois elles rendent souvent malheureux la plupart des gens qui les commettent. Et donc j'ai essayé d'établir une connexion causale, on va dire, entre peur de la mort d'une part, et mauvaises actions ou péchés, alors je sais bien que c'est pas la même chose, mais je vais prendre les deux ensemble pour le moment, d'autre part. Donc, thèse 3. L'efficace propre de la croyance commune sur la mort, c'est de conduire les êtres humains à ce type d'actes mauvais et en un sens à rater leur vie. C'est-à-dire, la peur de la mort tend à nous placer dans une sorte de médiocrité ou dans le pire des cas de nullité existentielle. Et donc la croyance tendale sur la mort est à la fois une croyance à implication forte, mais une croyance globalement négative, hein, puisqu'elle nous place dans une situation négative, elle aussi, qu'on pourrait appeler une situation de péché, de laquelle nous avons besoin d'être sauvés, et puis dès à présent, pas seulement pour l'autre vie. Thèse 4, alors je pense que vous me voyez venir après, sur la libération, le salut, enfin la façon de se sortir de cette situation pénible, et dès à présent, pas seulement dans l'autre vie. C'est une façon de comprendre ce que c'est qu'être sauvé, ça serait sortir de cette situation médiocre, voire mauvaise, où nous plongerait, si on suit les hypothèses de façon mécanique et quasi inévitable, la peur de la mort. Processus de libération qui libérerait aussi, peut-on penser, des énergies pour une existence plus joyeuse. Et donc la solution, c'est d'adopter sur la mort une croyance dont l'efficace serait de nous délivrer de la peur de la mort et de ses effets nocifs. Par exemple, croire que la mort n'est pas la fin de la vie. Alors, ces croyances qui prétendent nous délivrer de la peur de la mort. Là, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un point sur lequel je converge avec Luc Ferry. Luc Ferry dit le problème numéro un de la philosophie, c'est la peur de la mort et comment nous en délivrer. Ça, je pense que je suis assez d'accord avec lui sur cette thèse-là. Ces croyances, il y en a plusieurs. Il y en a une que je trouve tout à fait performante chez Épicure et qui mérite à mes yeux d'être sérieusement considérée, mais elle se rangerait dans la catégorie des autosotériologies dont je parlais tout à l'heure. Et puis, dans la catégorie des hétérosotériologies, il y a une croyance qui est la croyance chrétienne, de croire que le Christ est ressuscité, nous montrant par là que la mort n'est pas le terme, puisqu'il l'a vaincu. Et donc là, ça bascule tout naturellement dans l'univers de pensée chrétien. Je peux nouer les thèses précédentes en essayant d'expliquer comment l'efficace propre de la croyance ou de la foi en la résurrection du Christ, c'est idéalement au moins de nous libérer de la peur de la mort et par là de nous placer dans une situation, de nous libérer de la situation existentiellement difficile dont je vous parlais. Et donc l'idée en gros, mais c'est que la foi en la résurrection du Christ, si nous en avions gros comme une graine de moutarde, hein, mais devrait déclencher. Faut-il espérer, ou devrait déclencher, c'est celui qui possède cette foi, une série de processus intellectuels et affectifs qui améliorent l'existence humaine. Et c'est ça l'aspect du salut dont j'ai essayé de parler, parce que je n'excuse pas qu'il y en ait d'autres, mais si vous suivez mon diagnostic, donc un des problèmes centraux dans nos vies qui nous perd et qui nous conduit à les rater, c'est un certain rapport apeuré à la mort conçu comme fin de la vie. Alors, effectivement, la croyance que la mort a été vaincue pour nous, croyance centrale, hein, enfin, Saint Paul le rappelle dans le christianisme, est sans doute un excellent moyen de parvenir au salut, de se libérer des fautes et des comportements nocifs que nous, chrétiens, nous appelons des péchés et qui gâchent notre existence. Donc voilà dans les grandes lignes mon hypothèse. C'est une façon, c'est sûrement pas la seule, hein, plus ça va, plus je suis convaincu qu'en sotériologie, il faut empiler les modèles, en fait. Donc, ça, c'en est un, mais on peut en articuler d'autres avec lui. Pour essayer de répondre de façon intelligible aux gens d'aujourd'hui à la question « le salut, comment ça marche ?» Donc, de donner un sens au concept chrétien de salut. Alors, je termine par quelques précisions et une ou deux remarques. Il me reste 7 minutes, c'est ça ? Ah oui. Sur un des problèmes essentiels là, dont je viens de vous parler, donc la question de la mort et de la peur de la mort, si je devais résumer mon sentiment ici, si vous admettez la problématisation que je vous ai proposée, qui évidemment ne va pas de soi, je dirais que quand on commence à réfléchir un peu aux doctrines, aux thèses en présence, etc., il y a quand même pas mal qui font pas le poids. Le match... Le face-à-face, c'est épicurisme contre christianisme, me semble-t-il. Alors personnellement, bon, évidemment, je ne m'en cache pas, dans ce combat de géants, je donne un certain avantage à Jésus-Christ, je peux expliquer pourquoi, mais j'ai aucun mal à reconnaître l'extrême solidité philosophique et le grand intérêt existentiel de la position épicurienne. Deuxième remarque, je n'ai bien entendu pas prétendu que le salut était, qu'on était sauvé par la connaissance, hein, que le salut était réservé aux savants, aux non-charbonniers, qui réfléchissent à la façon dont le salut s'opère. C'est la foi qui sauve, enfin, alors, c'est la foi qui sauve, bon, après, ça ouvre des tas de sympathiques querelles théologiques, mais peut faire bien cet énoncé, c'est la foi qui sauve. Il suffit, si l'on peut dire, de croire que le Christ est ressuscité pour entrer dans la dynamique de salut que j'ai essayé d'esquisser là. Ce que fait de plus celui qui réfléchit, enfin, comme vous, c'est d'essayer d'expliquer comment cette dynamique s'opère, de rendre intelligible le processus. Il faut préciser, parce que c'est des sujets un peu délicats, le sens du déplacement du centre de gravité de l'action salutaire du Christ depuis la passion vers la résurrection. Il ne s'agit pas de prétendre que tout le négatif du Vendredi Saint ait été inutile ou superflu, enfin, un peu comme le faisaient les scolastiques en disant dans l'œuvre de salut, la résurrection, ça ne sert pas à grand-chose, enfin certains scolastiques, pardon. Il n'est pas indifférent, bien entendu, que le Christ soit mort sur la croix au terme d'un supplice infamant. Vous voyez, enfin, pour vous faire sentir ça, je ne prétends pas que ça aurait été la même chose si le Christ était ressuscité quelques jours après être mort paisiblement dans son lit. Ou s'il avait proclamé la victoire sur la mort sans mourir lui-même. Autre solution. Alors d'abord, comme l'expliquaient les théologiens des premiers siècles quand ils contraient les résidocétistes, la réalité de la résurrection du Christ suppose celle de sa mort. En second lieu, dans sa part douloureuse et négative, la passion dans sa part douloureuse et négative et la résurrection d'autre part sont en fait les deux moments d'un même événement de salut. Dans son volet initial, il fait apparaître que le salut ne s'obtient pas par la facilité, par les moyens, les richesses, les pouvoirs, les honneurs que les à l'accoutumée promis dans le monde. Donc la passion manifeste la difficulté du chemin qui conduit au salut, le caractère parfois douloureux ou sacrificiel du combat engagé contre le mal et ce qui y porte. Et ça rappelle qu'il y a un ordre de... Enfin, toute thèse que je conserve, hein, je crois, qu'il y a un ordre de succession qui a été suivi par le Christ en personne, la passion d'abord et la glorification ensuite. Et donc, il y a quand même, ici, tant que dure notre vie ici-bas, une antériorité de la souffrance et de la mort par rapport à la résurrection. Et donc, tout ça pour vous dire que, comme disaient les théologiens, il était convenable que le Christ mourût en croix. Mais la passion ne peut sans doute être adéquatement saisie, y compris dans sa dimension salitaire, qu'en référence à l'événement postérieur hein, qui lui confère sa signification. Et vous voyez bien que alors, l'histoire d'un Jésus seulement crucifié aurait un tout autre sens, ou n'aurait peut-être pas eu de sens du tout, que ce serait une sorte de figure de l'absurdité du monde. Enfin, je ne veux surtout pas prétendre que l'explication que je vous ai proposée du processus de salut soit la seule valable et exclue les autres. On peut très bien l'articuler à la théorie de la satisfaction, en fait, sans grande difficulté. Mais voilà, j'aurais aimé attirer, en tant que philosophe, l'attention sur la valeur sotériologique, comme on dit, de la foi en la résurrection, et ça peut se prévaloir quand même de certains fondements scripturaires. Regardez Saint Paul, lettre aux Romains, texte 20 sur ma feuille. Si de ta bouche tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, texte qui articule explicitement la foi en la résurrection et au salut. Alors, pour en guise de conclusion, deux textes de l'Écriture dont la lecture figurée, on va dire, peut rejoindre et synthétiser ce que j'ai essayé de vous expliquer là. Le premier texte, il est célèbre, je ne l'ai pas mis sur les feuilles, le second non plus d'ailleurs, passage de la mer Rouge, Exode 14, qu'on lit, alors ce n'est pas un hasard à la veillée pascale, quand on célèbre la victoire sur la mort. Depuis les pères de l'Église, ce récit de la libération du peuple juif et de son passage a été compris comme une figure de la libération accomplie par le Christ, et en particulier celle dont il gratifie l'humanité par sa passion et sa victoire sur la mort. Alors, je peux sortir sans difficulté de ce texte une figure que je peux appliquer à la thèse que j'ai essayé de vous présenter. Vous avez les Hébreux bon, qui sortent d'Égypte enthousiastes, etc., paralysés par le danger qui les menace et l'absurdité de leur situation existentielle, et d'autre part, allant taper contre le mur liquide de la mer, d'accord ? Alors, vous savez que dans la nouvelle, le mur Sartre, qui essaie de mettre donner une présentation littéraire de la thèse d'Heidegger sur la mort, hein. C'est cette idée que c'est quoi la mort ? C'est le mur contre lequel on va taper et s'écraser, donc c'est la situation des Hébreux qui s'apprêtent à aller taper contre le mur, et puis... Les eaux s'ouvrent, et donc le récit de l'Exode suggère qu'à la façon dont Dieu délivre de leur peur les Hébreux poursuivis en ouvrant les eaux, contre lesquels les Hébreux allaient buter, la résurrection du Christ ouvre pour l'humanité une brèche dans le mur de la mort, et libère ce faisant de la peur ainsi que du péché figuré par les Égyptiens que les flots balaient. Et puis, deuxième texte, c'est le récit des pèlerins d'Emmaüs dans Luc. Il offre, là, il n'y a même pas tellement besoin d'en faire une figure, hein, une image narrative de la conversion existentielle, du changement de sens de la vie opéré par la foi en la résurrection. Alors, on peut distinguer trois moments dans ce texte. Vous avez la vie dans l'ombre de la mort, disciples après la mort du Christ. Les espoirs placés dans le Christ ont été déçus, amertume, sentiment dominant de tristesse, un échec existentiel. S'éloignant de Jérusalem, donc du lieu où ils ont cru en la possibilité d'une vie nouvelle, les deux disciples s'engagent sur un chemin vide de sens et vers un futur qui ne mène à rien. Je crois, je ne sais pas, il y a sûrement des gens plus savants que moi dans la salle là-dessus. Je crois qu'Emmaüs, on ne sait même pas où c'est, en fait. Hein, c'est nulle part. Deuxième moment, l'acte de foi dans la résurrection du Christ, alors qui ne s'impose pas comme immédiatement évident, mais comme la conclusion d'une phase de discernement et de reconnaissance dont les moments marquants sont une réflexion sur le texte biblique, hein, il leur interpréta la Bible, et un acte qui évoque ce que Jésus avait accompli avant sa mort. Et puis troisième moment, la conversion, au sens littéral, enfin au sens que le mot a encore sur les pistes de ski, hein, quand on fait demi-tour pour se remettre dans le bon sens, conversion et vie nouvelle qui résulte de l'acte de foi en Jésus-Christ ressuscité. Les disciples changent de direction et réorientent leur vie vers Jérusalem, le cœur brûlant, dit le texte, brûlant de joie, peut-on penser. Et donc en référence à ce dernier texte, on peut dire que j'ai tenté de vous proposer les linéaments d'une conception emmaüsienne du salut. Voilà, je vous remercie.
Un très grand merci, Denis, pour ton exposé très clair et surtout qui a le souci de nous rejoindre dans notre réalité quotidienne et de parler le langage de nos contemporains et sans langue de bois, je dirais, mais en essayant de prendre en compte à la fois les attentes et en même temps les déceptions, peut-être, qu'une certaine manière de parler du christianisme peut susciter. Merci notamment d'avoir souligné à quel point cette croyance à la résurrection, enfin, peut vraiment transformer nos vies de façon très concrète et donc en ce sens-là nous sauver au sens strict. Je pense que beaucoup dans la salle auront envie de réagir ou de poser l'une ou l'autre question. Et donc, nous avons un moment pour cela. Donc, je donne la parole à ceux qui souhaiteraient soit poser une question d'explication, soit réagir, soit... Voilà. Monsieur. Oh, je pense que si vous parlez fort, ça doit marcher.
Donc vous êtes quelqu'un, enfin vous ne me répondez pas si vous voulez, vous êtes quelqu'un qui pensait que le Christ est ressuscité.
Oui, mais je parle.
Mais que pour vous, ça ne signifie rien concernant votre propre et éventuelle résurrection. Oui, non, alors c'est une position, d'accord, c'est une position, oui, c'est une position qui est tout à fait logique. On peut considérer qu'elle est tout à fait tenable, c'est-à-dire il est arrivé il y a quelques 2000 ans qu'un type ressuscite, puis voilà, c'est fini. Donc ça reste comme un événement extrêmement spectaculaire de l'histoire de l'humanité, parce que ça n'est quand même pas arrivé à beaucoup de monde, encore que si vous lisez les textes antiques, hein, il y a quelques cas de résurrection, mais c'est souvent des gens, enfin, comme disaient les poètes renaissants, qui ressuscitent mais qui sont encore mourables, hein, donc qui ressuscitent et qui remeurent par la suite. Oui, donc tel que vous le décrivez, alors moi je conçois très bien ça. Alors, quant à mon exposé, il me semble bien, j'ai essayé, mais peut-être vous avez raison, je ne l'ai pas assez dit, j'ai essayé d'indiquer que la foi complète, la foi chrétienne complète, c'était l'idée que la résurrection du Christ signifie que la mort est vaincu pour nous, donc nous sommes également concernés par ça. Après, alors évidemment, mais il faut lire les choses de l'intérieur de la foi, enfin, les textes sont quand même assez innombrables, je ne sais pas, mais fréquents dans les évangiles, sur les places qui sont préparées, Matthieu 25, enfin, l'idée qu'il y a un après la mort, donc c'est vers ça que la résurrection du Christ fait signe, me semble-t-il. Donc, mais vous avez raison, on pourrait très bien concevoir. Alors peut-être on pourrait dire, on prend une expression de Benoît XVI qui m'avait beaucoup plus le, enfin, ou marqué quand il l'avait employé, il disait pour nous, la résurrection du Christ est une mutation existentielle sans précédent. C'est une mutation existentielle sans précédent, c'est-à-dire ça signifie l'entrée de l'humanité dans un régime de vie humaine totalement différent de ce qui pouvait être auparavant. D'accord. Pour vous, manifestement, non. D'accord. D'accord. Bah parce que non, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien logique et démonstratif. Je peux pas vous démontrer ipso facto que l'un applique l'autre. Je crois pas. En philosophe, en tout cas, je pense qu'un théologien le. Oui. Non, alors là, je suis désolé, je vais vous décevoir, vous me demandez trop, je ne sais pas faire. Mon essai est un essai philosophique, mais alors, je n'ai pas voulu m'étendre, j'ai déjà fait beaucoup au début sur des considérations de méthode. À un moment, je change de régime, c'est le passage de ma thèse 3 à ma thèse 4, c'est-à-dire que jusqu'à ma thèse 3, je prétends ne réfléchir qu'avec des éléments philosophiques, discutables, mais constituables par la seule raison naturelle. Ma thèse 4 réfléchit philosophiquement sur un élément révélé, qui est la résurrection du Christ. Je ne peux pas vous démontrer, alors je sais bien qu'il y a des traités qui prétendent rendre argumentés, on peut dire qu'il y a des raisons de convenance, c'est pareil pour la résurrection du Christ, il y a des arguments, oui, le tombeau vide, pourquoi il aurait été caché, etc. Mais voilà, je n'ai pas de démonstration de l'existence de la réalité de la résurrection du Christ, un acte de foi. Cela dit, si vous faites un peu d'épistémologie de l'histoire, il n'y a pas que de la résurrection du Christ qu'on n'a pas de démonstration. Hein. Démontrez-moi qu'il y a eu une bataille en 1515 à Marignan. Bon, on n'est pas dans l'ordre de la rationalité mathématique dure où on peut établir des choses aussi certaines que des théorèmes. Il y a eu une bataille à 1515 en Marignan, hein, mais ça ne se démontre pas, ça se croit sur la foi d'un certain nombre de témoignages dont nous avons toute raison de penser qu'ils sont fiables. Donc, si vous me reprochez de ne pas pouvoir vous démontrer la résurrection du Christ, ça non. Et après, vous démontrez qu'on peut passer nécessairement de l'affirmation de la résurrection du Christ à l'affirmation de notre propre résurrection, non. C'est aussi dans l'intérieur de à l'intérieur de la foi que ça se déploie. Voilà. Cela dit, c'est quand même une sorte d'argument qui fait présomption. Il y en a au moins un qui est passé. Donc c'est déjà mieux qu'avant en termes d'espérance pour au moins tenir ça.
Alors il y a plusieurs demandes de parole. Oui, monsieur d'abord. Oui. Oui. Non, bah, derrière vous d'abord et ensuite je vous donnerai la parole, monsieur.
Oui, alors bah, globalement je suis tout à fait en accord avec vous, hein. Je crois qu'effectivement je cite Descartes, le bon sens, c'est-à-dire la raison, parce que c'est la chose au monde la mieux partagée, que si nous cherchons un point commun pour discuter avec, enfin nous chrétiens, un point commun avec les gens pour discuter, c'est effectivement de là qu'il faut partir. Je pense que c'est ça qu'avait en tête Benoît XVI, hein, avec cette espèce d'insistance permanente que certains ont trouvé lassante lors de son pontificat sur la rationalité. L'idée que c'était de là qu'on pouvait parler. Et donc, l'idée, vous voyez, que la prise en compte rationnelle des grandes interrogations de l'homme puisse servir, alors c'est une expression de théologien scolastique, de préambule à fidei, de préambule à la foi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus ignorer la dimension de saut qualitatif, hein, qu'il y a quand on quitte le terrain de la raison pour passer sur celui de la foi. C'est-à-dire, en une formule, on n'a jamais converti personne avec des arguments philosophiques. Hein,
Il y a peut-être d'autres questions, monsieur, donc allez vite si vous voulez bien.
Alors, oui.
Voilà. On va peut-être donner la parole à plusieurs.
Dans les trois questions de Kant là, que vous avez citées, que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, à mon sens, le thème de la résurrection répond spécifiquement à la troisième. D'accord, c'est pas la question que puis-je savoir, parce que c'est pas de l'ordre de la science. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'ordre de la morale. Donc. Et enfin, alors, je prendrai juste, si vous me permettez, un tout petit peu de distance avec vous quand vous parlez de ces gens qui, ces chrétiens qui parlent trop... à l'intérieur de l'église, sans souci. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, d'accord. Donc, il y a différentes façons d'aborder les questions. Ça dépend avec qui on parle. Je crois que il faut savoir simplement bien régler son discours en fonction de l'interlocuteur.
Voilà. Il y a déjà plusieurs questions. Je voudrais les prendre un peu dans l'ordre. Monsieur, vous avez demandé la parole, je crois.
Oui. La question est.
Oui. Alors, ça m'étonnerait quand même que vous ne trouviez pas des théologiens pour vous parler de ça, parce que c'est un thème important, vous avez raison, oui. Alors, je suis fils de mon époque, et je parle à des gens qui sont fils de leur époque, et donc j'ai adopté, mais de façon assez délibérée, une perspective individualiste. Nous sommes dans une époque individualiste. Je rappelle quand même que le salut chrétien est un salut personnel. C'est quand même sur nos actes que nous serons jugés. Enfin, alors après, il y a les problèmes, la réversibilité, tout ça, d'accord. Mais bon, ça reste quand même une démarche, quelque chose qui me concerne moi, personnellement. Après, tout à fait d'accord pour dire qu'il faudrait, mais ça serait de l'ecclésiologie, ce que je ne sais pas faire, réinscrire l'ensemble des thèses que je vous ai proposées là sur un horizon collectif. Voilà. Et en ce sens-là, ne serait-ce que parce que si l'Église n'existait pas, nous ne serions pas là pour parler de la résurrection du Christ. Il a fallu que ça se transmette, tout bêtement. Hein, voilà. Donc tout à fait. Et en ce sens-là, je tiquais ces jours-ci sur un texte utilisant, en le lisant, je me suis dit une fois encore l'expression structure de péché. Alors je ne sais pas si elle a été inventée par Jean-Paul II, mais c'est lui qui l'a popularisée en tout cas. Et bon, elle a quand même beaucoup utilisé cette expression-là. Et alors je suppose que d'autres l'ont fait, mais je me suis demandé pourquoi dans ces mêmes textes il ne parlait pas de structure de grâce, c'est-à-dire le symétrique des structures de péché. Et je pense que, bien sûr, en ce sens-là, les collectivités qui nous portent sont des structures de grâce. Sont au moins l'horizon sur lequel s'opère notre salut. Après, est-ce qu'il ne reste pas quand même, alors philosophiquement en tout cas, dans le christianisme, quelque chose d'individualisant ? Ça me paraît moins clair. Et je pense que, les philosophes adoptent ça par le biais de la question de l'identité personnelle, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on peut dire que ce qui survit après la mort, c'est encore moi ? Étant entendu qu'il y a une espèce de transition d'État, etc. Le christianisme est assez fort sur ce... Alors, je n'en ai pas parlé. Le christianisme défend l'idée d'une résurrection de la chair. Ça me paraît beaucoup plus puissant pour penser la survie de l'identité individuelle après la mort que les théories qui défendent l'idée d'une seule survie de l'âme. Parce que moi, vous me dites, après la mort, il n'y a que ton âme qui survit. Moi, je ne suis pas une âme. Je suis l'union très étroite d'une âme et d'un corps, diraient les bons philosophes. Et donc, si on me dit « il n'y a plus que l'âme », je ne suis pas très sûr que ce soit encore moi, en fait. Si on me dit « il y a l'âme et le corps », là, ça me va mieux. Voilà.
On va donner la parole.